Bonjour à vous et bienvenue. Merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter avec au sommaire ce samedi 20 février. Le duel Natacha Polony-Jean Finkelstein pour revenir sur les temps forts de la semaine. Et puis, comme une envie de penser à autre chose qu'à la pandémie, à autre chose qu'aux stratégies pour lutter contre le Covid. Une envie ce week-end de parler de la beauté, de notre rapport à l'art. Justement, peut-être parce que les musées sont fermés et que nous en ressentons tous un manque, parfois cruel. Rendez-vous donc dans une vingtaine de minutes avec notre invité. C'est un tout jeune philosophe. Il enseigne à l'Université Columbia de New York et il publie un essai stimulant consacré à l'autre art contemporain. C'est le titre de ce livre d'un passionné qui propose un manuel de résistance au discours dominant sur l'art contemporain. L'horizon de la création, nous dit-il, ne se limite pas aux œuvres des artistes les plus cotés d'aujourd'hui, les Jeff Koons, les Damien Hirst, et même ceux qui les ont précédés, en pensant à Warhol et Marcel Duchamp. Alors comment retrouver ce qui compte vraiment en art? Comment retrouver aussi le chemin de la beauté? Rendez-vous avec Benjamin Oliven dans une vingtaine de minutes. Mais tout de suite, le duel.
France Inter. Le grand face-à-face. Ali Badou.
Le duel avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Jean Finkelstein. Salut les amis.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver et on va commencer avec ce qui a mis le feu au débat public depuis quelques jours. Depuis quelques jours et la prise de parole de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, c'était mardi à l'Assemblée nationale.
Je vais demander effectivement à ce que l'on fasse un bilan de l'ensemble des recherches qui se déroulent dans notre pays, que ce soit les recherches sur le post-colonialisme. Mais moi, vous savez, j'ai été extrêmement choquée de voir au Capitole apparaître un drapeau confédéré et je pense qu'il est essentiel que les sciences humaines et sociales se penche sur ces questions qui sont encore aujourd'hui d'actualité.
Une polémique partie donc de la critique de l'islamo-gauchisme par la ministre sur CNews. Islamo-gauchisme qui gangrènerait la société et les universités. Et une critique qui s'est prolongée en mise en accusation des études postcoloniales avec cette référence aux émeutes du Capitole à Washington il y a quelques semaines. Que vous inspire cette séquence, Gilles ?
Bon. Passons rapidement sur Frédérique Vidal, qui, non contente de se mettre à dos davantage encore, dirais-je, le monde universitaire dont elle est censée avoir la charge, a été désavouée par le président de la République lui-même, qui a été obligé de rappeler son attachement à l'indépendance de la recherche. On pense à la célèbre phrase de Françoise Giroud, par laquelle elle terminait en 1974 un éditorial assassin contre Jacques Chaban-Delmas. On ne tire pas sur une ambulance. On a oublié ce par quoi elle commençait son papier. Il semble de plus en plus égaré dans une partie qui n'est pas la sienne. Donc, passons sur Frédérique Vidal et venons au fond et à la difficulté récurrente d'avoir ce débat de fond qui, je crois, mélange deux questions. Il y a une première question sur l'islamo-gauchisme.
Oui.
Est-ce que l'islamo-gauchisme existe? Est-ce que le terme est le bon? Moi, c'est un mot que je n'utilise plus parce que je trouve son usage est devenu de plus en plus politique, de plus en plus polémique, de plus en plus polysémique. Mais il a eu à l'origine, je crois, une réalité, enfin il a toujours une réalité, mais il avait une définition possible qui était une dérive de l'extrême gauche qui avait toujours fait de la question sociale sa question centrale, qui avait fait de l'ouvrier la figure de l'exploitation et qui petit à petit a glissé, a fait de l'ouvrier, a remplacé l'ouvrier par l'immigré, puis l'immigré par le musulman et a commencé à faire de la question raciale la question centrale. Et c'était cette jonction qu'on a pu appeler, je crois à raison, l'islamo-gauchisme, qui s'est traduite parfois politiquement dans des listes électorales, quand on a vu quand le NPA, par exemple, a mis sur ses listes une jeune femme qui était voilée.
Enfin, c'est quand même resté toujours très marginal.
Oui, mais ça, voilà.
En politique.
Cette réalité-là existe. Elle existe aussi dans le champ intellectuel et dans le débat public. Bon, ça, c'est un premier point. Et puis, il y a un deuxième point qui est le débat sur l'université et sur l'islamo-gauchisme à l'université. En réalité, ce n'est pas ça qui était visé. D'ailleurs, entre la première interview et ce qu'elle dit à l'Assemblée nationale, elle fait évoluer le propos, puisque en réalité, ce qui est visé, ce sont les études de genre, les études postcoloniales, les études sur les discriminations. Je crois que ces études ont eu et ont une utilité. Elles permettent de mettre au jour un certain nombre de choses que l'on n'avait pas vues, et y compris l'articulation entre ces différents phénomènes. C'est-à-dire qu'il y a un bon usage de ce qu'on appelle l'intersectionnalité.
Et on a eu l'occasion d'en discuter ici à de nombreuses reprises.
Dont la semaine dernière encore avec Françoise Vergès. Mais, et je termine par là, elles occupent, je crois, une place qui est aujourd'hui une place excessive, une place presque hégémonique dans l'université, et que surtout, au-delà de la place qu'elles occupent, certaines d'entre elles ont une dérive qui font de la question de l'identité une question qui s'est substituée à la question de l'égalité et qu'elles occupent, je crois, une place qui est excessive.
Natacha Polony.
Alors, pour reprendre un petit peu la progression mise en place par Gilles, premier point, en effet, Frédéric Vidal a été d'une absence absolument remarquable pendant toute cette pandémie, alors même qu'en septembre-octobre, il eût été intéressant que la ministre de l'Enseignement supérieur se mit en peine de préparer la rentrée universitaire pour éviter les risques de propagation du virus dans les universités. Ça n'a absolument pas été fait. On a attendu un temps infini pour prendre en compte la misère des étudiants aujourd'hui, les situations absolument dramatiques qui existent. Et j'ajoute un point, l'université française va mal. Elle est en voie de paupérisation. Il y a une réflexion de fond à mener sur son organisation, sur l'organisation d'ailleurs du système d'enseignement supérieur en général, parce que c'est l'articulation entre l'université, les grandes écoles qui doit être posée. Donc tout ce travail-là devrait être fait et ne l'est pas. Donc Frédéric Vidal est d'une maladresse insigne lorsqu'elle se lance dans un débat dont visiblement elle ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants, au lieu d'agir là où il y aurait urgence.
Maladresse pourtant, ou véritable stratégie politique, idéologique?
Je pense que c'est une maladresse absolue et une, j'allais dire, là, oui, je vais être peut-être moins gentil que Gilles, la preuve d'une incompétence. Mais pour autant, ce qui m'a profondément énervé cette semaine, c'est la façon dont beaucoup se sont saisis de cette maladresse et de cette incompétence pour dire oh ben en fait, il n'y a aucun problème. Donc tout va bien, circulez, il n'y a rien à voir. Frédéric Vidal est absolument nul, c'est idiot, ce terme-là n'existe pas. Quand on voit le CNRS lancer un communiqué pour expliquer que le terme d'islamo-gauchisme n'a pas de validité scientifique. En effet, enfin, pour le coup, la validité scientifique, c'est quelque chose qui se construit, qui se construit notamment dans le débat scientifique.
Oui.
Moi, c'est un terme que je n'utilise pas parce que je me méfie beaucoup des mots slogans et du fait que certains mots, en effet, à force d'être partagés, à force d'être utilisés comme armes politiques, ne signifient plus rien et sont vidés de leur sens. Et il faudrait avoir le temps à chaque fois de les redéfinir avant chaque usage, ce qui ne peut pas toujours être fait.
Mot piège, disait Thomas Legrand sur notre antenne.
Oui, mais ce mot, moi, quand je lis des articles expliquant, c'est un mot de l'extrême droite. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, Pierre-André Taguieff, qui est celui qui, en France, a popularisé ce terme, n'est pas d'extrême droite. Et il l'a utilisé, en effet, pour désigner un courant très précis au lendemain notamment de la deuxième intifada. Et il y a une définition, il a forgé un concept, donc ce concept n'est pas plus absurde, me semble-t-il, scientifiquement, que ne le sont des termes acceptés par le CNRS comme privilège blanc, racisme systémique, etc., qui aujourd'hui fleurissent dans les sciences sociales, parce que je pense que des concepts contestables dans leur validité scientifique, il y en a beaucoup aujourd'hui.
Mais quel lien entre l'islamo-gauchisme, le post-colonial et l'occupation du Capitole?
J'allais y venir. Non, aucun. C'est pour ça que je dis que Frédéric Vidal... Enfin, aucun. En tout cas, là, on ne comprend pas pourquoi Frédéric Vidal fait allusion au Capitole pour essayer de se dédouaner, pour dire, vous voyez, moi aussi, je lutte contre l'extrême droite. Enfin, c'est absurde. C'est aberrant. Et le terme islamo-gauchisme, en effet, Gilles l'a dit à l'instant, n'était pas le bon, dans la mesure où ce n'est pas ça le problème des universités. Le problème des universités françaises, et en particulier des sciences sociales, c'est que un courant tend à s'imposer, un courant idéologique, alors qu'il faut un équilibre, normalement, des différentes visions dans l'université pour permettre justement à la pensée de progresser. Là, petit à petit, les postes étant distribués dans certaines études par cooptation, on voit comment petit à petit ce courant idéologique s'impose et a tendance à empêcher le surgissement d'autres pensées, tout simplement parce que des jeunes chercheurs sont petit à petit mis de côté, ou en tout cas n'ont pas les postes qu'ils voudraient parce que eux pensent mal, c'est-à-dire qu'il y a un rapport de force au sein des universités, ce qui a toujours existé.
Oui.
Mais il est nécessaire de le dire et d'y réfléchir. Aujourd'hui, certains penseurs, regardez, quand une femme comme Sylviane Agacinski, qui quand même a été une figure de gauche, explique qu'aujourd'hui elle est renvoyée à l'extrême droite et surtout qu'elle ne pourrait pas mener la carrière qu'elle a menée, qu'elle ne pourrait pas travailler à l'EHESS aujourd'hui, je pense que il faut tout de même se poser 2-3 questions, le faire avec prudence, certainement pas de la manière dont le fait la ministre en essayant de contrôler la recherche, c'est une catastrophe absolue. En revanche, nier qu'il y ait aujourd'hui un courant dominant de plus en plus sectaire dans les universités françaises me semblerait assez fou.
Gilles Finkelstein.
Un mot pour conclure sur ce sujet. Je crois qu'il y a un débat autour de la liberté académique et de la préservation de la liberté académique qui ne doit pas être la responsabilité de l'État. C'est-à-dire, c'est pas à l'État à distinguer de la bonne et la mauvaise recherche, c'est une responsabilité de la société et du monde universitaire. En revanche, les moyens académiques, ça c'est la responsabilité de l'État. Natacha a parlé de paupérisation, la France est un pays qui consacre beaucoup moins de moyens à ses universités que les autres pays, et les mesures, la loi qui a été adoptée est à la fois tardive et d'entrée en application beaucoup trop lointaine. C'est un monde qui souffre aussi de bureaucratisation de la recherche de plus en plus importante, et au fond, et je termine par là, d'une sorte d'incompréhension. Et d'incompréhension parce que, à la différence de ce qui se passe dans la plupart des autres pays, les responsables politiques français ne sont pas issus du monde universitaire. Mario Draghi est un universitaire, Angela Merkel est une universitaire, Boris Johnson est un universitaire, ce n'est jamais le cas en France.
Merci à tous les deux pour cet échange apaisé à propos de ce sujet qui a mis le feu au débat public. Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face, le duel.
Pour faire la loi, il ne faut pas improviser sur un sujet qui engage la démocratie. L'élection présidentielle étant la mère de toutes les élections, sans aucune concertation avec les partis politiques, sans avis du Conseil d'État. C'est déjà, dans la forme, une sorte de volonté de passer en force. Et on se demande pourquoi.
C'était la voix du sénateur Les Républicains Philippe Bas qui parlait du vote par anticipation. Mercredi, la commission des lois du Sénat a en effet rejeté l'amendement du gouvernement, amendement qui proposait de mettre en place le vote par anticipation pour l'élection présidentielle de 2022. Occasion manquée à en croire La République En Marche, qui voyait à travers ses représentants et dans ce texte une manière de moderniser la vie démocratique. Natacha, qu'en pensez-vous ?
Alors, j'en pense qu'il faut toujours mener ce genre de débat de la part des politiques avec énormément de prudence, parce que on se prend dans la figure systématiquement ce qu'on a tenté de faire, que ce soit d'ailleurs de bonne foi ou avec des arrière-pensées. Là, en l'occurrence, y avait-il une arrière-pensée lorsque cet amendement a été proposé, donc, pour mettre en place le vote par anticipation? Des mauvais esprits ont remarqué, par exemple, que l'élection présidentielle risquait de tomber au moment des vacances de Pâques de la zone C, c'est-à-dire de Paris.
En 2022?
Et que donc, les électeurs potentiellement macronistes pouvaient être en week-end ou en vacances à ce moment-là, et donc qu'il fallait trouver une façon pour eux de voter. Ce sont de mauvaises langues qui ont eu ce genre de réflexion, et on ne comprend
pas
d'où ça a pu leur venir.
Au second degré.
Mais voilà, c'est le débat qui est né, et c'est parce que ce débat ne pouvait pas ne pas naître, parce que il y a toujours des soupçons quand on touche aux règles d'organisation des élections.
Oui.
Cela dit, nous allons être obligés de nous poser la question de des différentes modalités de vote. Par exemple, c'est vrai que la question, c'est de savoir si la République En Marche a voulu faire un signe en direction du MoDem, qui réclame depuis des années non seulement la proportionnelle, mais une modernisation des conditions du vote. Est-ce que réellement c'est cela ? Emmanuel Macron, rappelons-le, en 2017, dans son programme électoral, prônait le vote électronique. Alors, la seule question à se poser, me semble-t-il, c'est de savoir si tout ça va rapprocher les citoyens des institutions, du vote, de l'élection.
Oui.
C'est la seule véritable question. Or, Or, c'est pas du tout ce qui risque de se passer dans la mesure où le mal est plus profond. Le mal est absolument, comment dire, celui qui gangrène le rapport entre les citoyens et les institutions ne se réglera pas par de la proportionnelle. Il faudrait remettre à plat l'ensemble des institutions, me semble-t-il.
On va y revenir justement, mais sur la question du vote par anticipation à la présidentielle, Gilles, il faut juste rappeler rapidement que les États-Unis, la Finlande, le Danemark, le Portugal ont récemment choisi ce système. Et donc, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi la France ne suivrait pas.
On peut tout à fait légitimement se poser la question. Le point commun aux propositions à la fois sur le vote par anticipation et sur la représentation proportionnelle, c'est d'essayer d'apporter des réponses à la crise de la démocratie représentative que nous vivons.
Et au problème de l'abstention.
Et donc au problème qui s'exprime notamment par le problème de l'abstention, dont on voit la progression, notamment aux dernières élections municipales ou aux dernières élections législatives, où on est au-delà de 50%, dont on voit les conséquences sur la légitimité des élus, mais dont il faut s'interroger sur les causes. Alors, je crois que il y a des causes de fond qui sont les plus importantes sur les crises de sens, l'idée de la représentation qui est moins forte, le moindre espoir dans la politique pour changer les choses. Mais est-ce qu'il y a, et c'est ça le sujet, aussi des causes qui tiennent aux procédures, à l'inadaptation des procédures? C'est l'objet des propositions qui ont été faites sur le vote par procuration, pour étendre le vote par procuration, et il y a des choses qui sont intéressantes. C'est les propositions qui ont été faites sur le vote électronique, sur le vote par correspondance, et donc sur le vote par anticipation. En l'espèce, la forme, une nouvelle fois, comme avec Frédéric Vidal, est absolument calamiteuse. Le débat arrive par un amendement gouvernemental.
Glissé à la dernière minute dans un texte organisé autour de l'organisation des élections, justement.
Voilà, aucun débat. Aucune étude préalable, pas d'avis du Conseil d'État nécessairement puisque ça arrive en cours de route. Bon, c'est sans doute pas comme ça qu'il faut faire. Mais le débat est intéressant. On avait publié.
Vous y seriez favorable ?
Je vais terminer par là. On avait publié le 28 octobre dernier une note de la Fondation Jaurès signée par Émeric Breillet, ancien parlementaire, alors qui n'était pas exactement sur les mêmes modalités, mais qui se déclarait plutôt favorable. Au fond, je trouve que ça repose le débat, vieux débat, entre les démocrates et les républicains. Vous savez, c'était ce débat, êtes-vous démocrate ou républicain, qu'avait lancé Régis Debray à la fin des années 80. Pour un démocrate, ça peut apparaître comme une solution à un problème technique et à une inadaptation de la société de nos procédures à l'évolution de la société, à une société plus individuelle dans laquelle le consommateur a plus le choix. Mm-hmm. Pour un républicain, ça apparaît, le vote par anticipation, plutôt comme un problème parce que ça apporte une encoche au rituel républicain où on se retrouve tous ensemble le même jour pour voter. Et donc, selon chacun, qu'on est un peu plus démocrate, un peu plus républicain, et parfois on est partagé entre les deux, je crois que la ligne de partage se fait.
Vous êtes démocrate ou républicain ?
Ouais, je suis sans doute plus démocrate que ne l'est Natacha.
Et bien justement, on va lui poser la question, Natacha.
Mais sur ce sujet-là, je dois dire que je suis encore en réflexion.
Vous êtes démocrate ou républicaine, Natacha ?
Il n'y a pas de doute.
Non, mais vous y seriez favorable, en l'occurrence?
Il faudrait élargir le débat.
Ou est-ce que vous
débat...
tenez au moment sacré du dimanche où l'on se retrouve dans une école primaire à faire la queue pour voter dans l'isoloir?
Je ne suis pas particulièrement ritualiste, même si je pense que certains rituels sont nécessaires dans l'histoire de la cohésion, l'histoire de la fondation des sociétés. En revanche, premier point, je suis plus attachée à la question de la campagne électorale, et le fait que certains votent avant la fin de la campagne électorale peut être problématique. Ça, c'est le premier point. Et ce qui crée une inégalité, une divergence de vue entre les citoyens. Le débat n'a pas lieu jusqu'au bout. Ça me semble quand même une dimension importante. Et deuxième point, pour revenir à la question, êtes-vous démocrate ou républicain? Je pense que le problème est que les démocraties néolibérales sont de plus en plus néolibérales et de moins en moins démocratiques. Et je suis républicaine parce que démocrate, puisque désormais c'est plutôt de ce côté-là qu'on peut sauver la démocratie.
Magnifique art de la synthèse, le duel continue.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
cap maintenant sur l'Italie qui a maintenant un nouveau président du Conseil, Mario Draghi, celui qu'on appelle aussi Super Mario, ancien patron de la Banque Centrale Européenne, l'inventeur du whatever it takes, le quoi qu'il en coûte au cours de la dernière grande crise financière. Mario Draghi qui compose une coalition politique pour le moins hétéroclite qui va de l'extrême gauche du mouvement 5 étoiles de Pepe Grillo à l'extrême droite et la Ligue de Matteo Salvini. L'Italie est en grave crise économique et Mario Draghi a formulé un projet politique clair, reconstruire le pays comme s'il était dans une situation d'immédiate après-guerre. Gilles Finkelstein, vous vouliez revenir sur ce qui se passe de l'autre côté des Alpes. Droite suite donc,
oui,
maintenant
suite,
que Mario Draghi est au pouvoir.
On en avait parlé il y a 15 jours, on s'interrogeait sur la majorité qu'il allait pouvoir constituer. Je vais commencer par une remarque qui peut paraître anachronique, inattendue et iconoclaste. C'est que, en regardant cette arrivée de Mario Draghi au pouvoir, son discours d'investiture, la majorité qu'il a rassemblée, je trouvais que ça a un faux air de De Gaulle 58. Oui, ah oui. Je vous vois, les auditeurs ne vous voient pas, vous avez levé un sourcil étonné, mais il y a...
Jusqu'à mes cheveux.
Jusqu'à vos cheveux. On a deux hommes qui étaient en retrait ou en retraite, qui étaient dans leur maison éloignée des fureurs de la capitale. On a deux hommes qui sont perçus comme des sauveurs, sauveurs de la patrie pour l'un, sauveurs de l'Europe pour l'autre. On a deux hommes qui sont extérieurs au monde politique, qui n'ont jamais été parlementaires ni même jamais élus. On a deux hommes qui reviennent pour le redressement national et on a deux hommes qui réussissent à rassembler une majorité qui est à la fois pléthorique et qui, se faisant, a peu de cohérence. Donc je trouve que ce fil-là m'a amusé, même s'il ne faut pas le pousser trop loin et que les personnalités de Mario Draghi et de Charles de Gaulle sont évidemment très, très éloignées.
Et mais, que Charles de Gaulle n'était pas banquier chez Goldman Sachs.
Absolument pas. La question est de savoir si ça va être une parenthèse, Draghi, ou un tournant. Il dispose, vous l'avez dit, d'une majorité qui est pléthorique. Hein. Il a été élu à son investiture a été votée à l'Assemblée nationale par 535 voix contre 56. Donc il rassemble pratiquement tout l'arc politique. La question est de savoir où est maintenant la menace pour lui. Est-ce que c'est lui-même, comme ça a pu être le cas à certains moments pour De Gaulle? Est-ce que c'est son prédécesseur, Giuseppe Conte, qui a rassemblé 1 million de voix sur son poste de Facebook de départ, ou est-ce que, ce qui me semble le plus vraisemblable, c'est l'extrême droite qui a fini par se rallier de manière surprenante compte tenu des positions qui étaient les siennes à l'extrême droite sur l'Europe et de ce qu'a dit Mario Draghi dans son discours d'investiture, mais qui est aussi le signe d'une évolution dans le rapport à l'Europe, y compris de l'extrême droite. On a aujourd'hui cette extrême droite qui est bousculé dans son rapport à l'Europe et qui est concurrencé par un parti qui est encore plus à droite qu'elle. Donc si le problème doit venir, ça sera sans doute d'abord de là.
Natacha Polony, avant de passer au débat.
Rapidement, il est assez surprenant de voir à quel point aujourd'hui, des voix crient leur enthousiasme face à cette union nationale qui, en effet, va jusqu'à Salvini. Alors même que les mêmes, je pense par exemple au journal Le Monde titrait en août 2019 Matteo Salvini un péril pour l'Europe, aujourd'hui la Ligue a 3 postes de ministres dont le ministre du développement économique. Et il y a là quelque chose d'assez étonnant parce que évidemment Gilles le disait, c'est une évolution du parti de Salvini dans son rapport à l'Europe, c'est une forme de pragmatisme. Salvini a déclaré, si avec le professeur Draghi on peut parler de baisse des taxes pour les personnes et les entreprises, j'en suis. Mais il y a là quelque chose d'éminemment tactique aussi, et je ne comprends pas bien comment le péril monstrueux d'il y a 2 ans s'est transformé en quelque chose de formidable et de tout à fait acceptable. Dernier point, ça laisse évidemment une comme seule opposition Fratelli d'Italia, qui est pour le coup dans une telle position d'extrême droite que Salvini aurait presque l'air d'un type tout à fait modéré.
Centriste.
Donc il y a là aussi quelque chose qu'il faudra suivre avec attention.
Midi et demi à suivre dans le Grand Face-à-Face, le débat avec Benjamin Oliven.
France Inter. Le Grand Face-à-Face. Le débat.
Et je vous le disais, une envie ce samedi de parler de la beauté, de parler de notre rapport à l'art, justement parce que les musées sont toujours fermés, que nous ressentons pour certains un manque. Rendez-vous aujourd'hui avec un jeune philosophe, il enseigne à l'Université Columbia de New York. Il vient de publier un essai stimulant aux éditions Grasset consacré à l'autre art contemporain. C'est une sorte de manuel de résistance au discours dominant sur l'art contemporain. L'horizon de la création, nous dit-il, ne se limite pas aux œuvres des artistes les plus cotés et les plus en vue d'aujourd'hui, qu'on pense à Jeff Koons, Damien Hirst, et on peut continuer la liste très très longtemps et remonter jusqu'à Warhol, à Marcel Duchamp au tout début du XXe siècle. Alors, ces considérations sur l'état des beaux-arts, nous avions envie d'en débattre aujourd'hui, retrouver peut-être quelque chose comme une définition de la beauté. Bonjour Benjamin Oliven.
Bonjour, merci de votre invitation.
Merci d'être avec nous sur France Inter. L'autre art contemporain, sous-titre « Vrais artistes et fausses valeurs », c'est chez Grasset. On va en débattre dans un instant avec Gilles et Natacha. Juste un mot pour nous expliquer ce sous-titre assez mystérieux « Vrais artistes et fausses valeurs ». Par comparaison et par différence avec quoi, Benjamin Oliven ?
Disons les artistes prétendus tels qui font la couverture des journaux le plus souvent dans l'actualité artistique ou même plutôt dans l'actualité financière, en fait, pour les prix records qu'ils obtiennent et qui paraissent à tout le monde insolites en comparaison de ce que sont les objets qui sont vendus. Et j'ai voulu écrire un livre pour dire qu'il y avait d'autres artistes dans notre époque qui pouvaient nous donner infiniment plus de plaisir et d'émotion. Et la même que ceux des artistes du passé que nous aimons.
Mais la valeur d'une œuvre, elle n'est pas que financière. C'est vrai que c'est aussi quelque chose qui a trait à la subjectivité. On peut vraiment essayer de repenser ce qui fait un chef-d'œuvre aujourd'hui, ce qui fait la beauté, tout simplement, et d'une manière qui nous réunisse tous, Benjamin Oliven.
Oui, je crois. Vous dites que c'est subjectif, et effectivement, ça l'est. Et en même temps, il y a des œuvres qui s'imposent. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde aime Vermeer, par exemple. Et donc, il y a en nous, je pense, la capacité de faire un accord sur des choses belles, malgré la subjectivité. De même, si vous marchez dans la campagne avec un ami et que vous trouvez un paysage beau, vous lui montrerez en lui disant, regarde comme c'est beau, et vous espérez qu'il sera d'accord avec vous et qu'il y aura un accord.
C'est très vraisemblable. Natacha Polony a adoré votre livre et comme c'est une spécialiste des fiches de lecture et des profils d'une œuvre, Natacha, l'autre art contemporain, vous l'avez lu. De quoi s'agit-il ?
Merci pour la définition spécialiste des fiches de lecture et des profils d'une œuvre. Je vais donc
profil
faire le profil d'une œuvre,
c'est indispensable.
Ce petit livre est d'abord, il faut le dire, est extrêmement drôle. Il est écrit de façon, avec une ironie assez sympathique pour nous raconter que nous n'avons pas à avoir honte de trouver absolument dépourvues de sens et d'intérêt certaines œuvres qui aujourd'hui sont considérées comme étant obligatoirement géniales. J'avoue que pour ma part, n'ayant jamais été touchée par la moindre œuvre de Jeff Koons ou de Murakami ou de McCarthy, j'ai trouvé ce livre assez intéressant parce que j'espérais avoir la réponse à mon indifférence totale vis-à-vis de cet art.
L'avez-vous
et
trouvé ?
Cette réflexion est fondamentale. Pourquoi ? Mais bien sûr, et c'est cela qui est formidable, c'est-à-dire l'explication de cette fausse histoire de l'art qui s'est construite sur l'idée d'une avant-garde obligatoire et du fait qu'il faudrait systématiquement aller vers un progrès qui serait celui de la remise en cause du beau, de l'art lui-même, de la figuration bien sûr, ce qui laisse de côté des artistes figuratifs majeurs qui ont pu pourtant produire des œuvres extraordinaires alors même qu'on nous expliquait que la figuration était ringarde. Lucian Freud en particulier est un artiste essentiel. Donc cette réflexion va jusqu'au bout du questionnement et je voudrais commencer par là. Vous avez Ali introduit en parlant de la beauté. La question est sans doute de savoir en effet comment définir la beauté puisque on nous explique aujourd'hui que une œuvre d'art n'a pas à être belle et que de toute façon la beauté est subjective. Or, il me semble surtout que la question de la beauté et de l'idée que l'art chercherait une forme de beauté, ça suppose peut-être un cosmos, un univers harmonieux. Et dans une époque où ce cosmos n'est plus pensé, alors on a déconstruit même la beauté, alors que vous nous dites, Benjamin Oliven, que c'est une aspiration naturelle de l'être humain.
Benjamin Oliven.
Oui, tout à fait. Et je suis toujours très frappé du fait que les gens qui vous disent, mais vous savez, depuis Duchamp, l'art n'a plus à voir avec la beauté, c'est pas ça qui compte. Vous diront ensuite du même mouvement, deux phrases plus tard, qu'ils pleurent d'émotion en écoutant telle ou telle chanson, je sais pas, I Will Survive de Gloria Gaynor ou je sais pas quoi, ouais. Ou en regardant un match de football, parce qu'en fait la beauté ou l'émotion ou le plaisir sont des besoins humains fondamentaux et ils ne disparaissent pas parce que des théoriciens souvent très intelligents et brillants, ou des artistes, ont décidé que c'était une idée d'un autre siècle. Et non seulement ils n'ont pas disparu dans notre vie, mais ils n'ont pas disparu dans l'art. Il y a des artistes au XXe siècle, et jusqu'à aujourd'hui, qui ont continué de la chercher et de la trouver.
Tout ne se résume pas, donc, selon vous, aux colonnes de Buren, et des colonnes de Buren au plug anal de McCarthy. Et en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les deux, Benjamin Oliven, on a le sentiment que vous laissez de côté l'importance, par exemple, que peut avoir David Hockney aujourd'hui. Vous citez Booba, et c'est assez drôle d'ailleurs. Booba, les vrais reconnaissent les vrais, pourquoi ça ?
Non, au contraire, David Hockney est un artiste très important pour moi, mais il faut comprendre que David Hockney est aujourd'hui mondialement célèbre et célébré en France, mais s'il était né en France, s'il avait exercé en France, je suis pas sûr qu'on aurait pu reconnaître sa peinture et l'apprécier à sa juste valeur. Il est né dans le climat anglais, à l'ombre de Bacon et de Lucian Freud, en Angleterre où il y avait une école de peinture figurative, en tant que tel, et c'est comme ça qu'il s'est épanoui. Non, j'ai la plus grande admiration pour Hockney.
Et il est passé par Los Angeles et Cocorico, il s'est installé en France depuis quelques mois.
Bien sûr, parce que pour pouvoir fumer tranquille. Je cite la phrase de Booba que vous citez, parce que en fait, pour proposer une autre histoire de l'art du XXe siècle et même du XXIe, je ne me suis pas seulement fondé sur ma subjectivité et mon goût personnel, mais j'ai suivi le critère de la reconnaissance des artistes entre eux. Par exemple, Hockney, dont vous parlez, est venu à Paris dans les années 70 et il s'est installé dans l'ancien atelier de Balthus, cours de Rohan, dans le 6e arrondissement. Et en fait, vous voyez, des artistes qui ne peignaient pas, disons, dans le sens de la dernière avant-garde, se sont tous reconnus entre eux, admirés à travers les générations, et c'est donc ce fil que j'ai suivi pour
écrire. Oui, exactement, ce principe de reconnaissance mutuelle entre artistes pour retrouver le fil d'une histoire qui vous fait remonter à Bonnard, à Vuillard en France, à Morandi en Italie, Hopper aux États-Unis, et c'est vrai que du coup ça crée une autre histoire de l'art contemporain. Gilles Finkelstein.
Oui, votre livre, Benjamin Oliven, n'est pas une critique de l'art contemporain en général, mais une critique de ce que vous appelez dès le début le monde de l'art contemporain, c'est-à-dire ce monde qui a, je vous cite, ses lieux, son discours, ses valeurs, ses critères de jugement. Donc, disons, une partie de ce monde-là. J'ai lu ce livre avec plaisir. J'ai trouvé qu'il était rafraîchissant. Je ne sais pas si vous le prendrez bien ou mal, mais il y avait un petit...
Rafraîchissant, même pour le progressiste que vous êtes.
Alors, c'était ça. Et je trouve qu'il y avait un petit côté réac avec humour et décontraction que je trouvais tout à fait intéressant. Et que c'est intéressant pas seulement sur l'art et sa fonction, mais que c'est intéressant aussi sur une vision de l'histoire, sur le rôle de l'État, sur l'évolution du capitalisme. Et donc, j'espère qu'on pourra l'aborder. Mais je voudrais vous interroger sur cette question de la beauté qui occupe une place centrale dans votre livre. Est-ce que, pour vous, le seul objet de l'art doit être la beauté, et est-ce que cette beauté ne se trouve, parce que c'est un peu l'impression que l'on peut avoir en vous disant, dans le figuratif et dans le narratif? Vous dites, par exemple, parlant de Picasso, vous concluez ce passage sur Picasso en disant « J'espère que plus le temps passera et plus on apprendra à distinguer dans son œuvre immense les innombrables morceaux de génie au détriment de ce qui relevait de l'épate bourgeois amusant du premier XXe siècle. » Et parlant de la peinture abstraite, quelques pages plus tard, vous dites « Ce qui vous plaît dans la peinture abstraite, c'est ce qu'elle a, de manière paradoxale, de figuratif. »
Benjamin Oliven.
Oui, tout à fait, mais parce qu'en fait, je pense que notre rapport à l'image est fait de telle sorte que nous demandons toujours à l'image de nous dire quelque chose du monde. Donc ce n'est pas seulement moi qui aime ce que la peinture abstraite a de figuratif, c'est, je pense, toute personne qui regarde une peinture abstraite se demandera ce que ses formes et ses couleurs lui évoquent du monde. Oui. C'est un mouvement spontané et la beauté et cette circulation entre l'œuvre et le monde, la représentation d'un coin du monde ou d'un aspect du monde qu'on n'avait pas encore vu de manière originale. Et donc c'est pour ça que je dis que l'abstraction, évidemment, il y a des résultats. Enfin, la peinture abstraite a donné des résultats prodigieux, mais que souvent ceux-ci, quand nous les regardons, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à des choses du monde extérieur. Par exemple, l'exemple le plus connu, c'est les peintures de Rothko. C'est beaucoup de gens, en les regardant, pensent à, je sais pas, une mer, une plage, un ciel, un coucher de soleil, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Alors, est-ce que seulement la beauté? Oui, disons que la définition de la beauté s'est élargie au cours du dernier siècle, donc nous avons appris à trouver belles des choses qui ont trait avec l'horrible, par exemple les démons de Goya, les corps un peu difformes de Lucian Freud, les monstres ou les nains de Velázquez, ou les figures torturées de Picasso.
Oui.
Mais je crois que c'est une définition élargie de la beauté, mais que c'est quand même toujours de beauté qu'il est question, malgré tout.
D'un mot, avant de redonner la parole à Natacha, le reproche, Benjamin Oliven, vous êtes tout jeune, vous prenez la plume, vous écrivez sur l'art, et on peut vous renvoyer l'idée que vous êtes un réac souriant, un réac stimulant, mais un réac quand même, comme on a pu qualifier Jean Clair, par exemple, très grand historien de l'art, académicien, de réac. Vous assumez?
Écoutez, si le livre était vraiment réac, je vous le dirais, je l'assumerais sans problème. Je crois qu'il ne l'est pas parce que l'attitude réactionnaire, ce serait d'uniquement rejeter tout ce que notre époque produit en disant qu'il est le signe d'une époque décadente et foutue.
Oui.
Et par exemple, je ne veux pas accuser quelqu'un d'autre, mais je pense que par exemple Michel Houellebecq dans La carte et le territoire, quand il dit que dès la Renaissance, en fait, l'Europe a pris un mauvais chemin qui devait l'amener nécessairement à l'art contemporain, ça, ce serait, à mon avis, plus réac que ce que moi j'écris, parce que moi, je défends un autre présent. Et par ailleurs, l'art contemporain officiel est quand même l'art du capitalisme le plus débridé et le plus spéculatif, donc je ne sais pas si c'est réac de le critiquer.
Et ça, justement, on va en parler. Natacha Polony.
Oui, rapidement, avant de venir à cette question du capitalisme qui me semble aussi essentielle, une dernière question sur vous venez de dire, nous demandons à l'image de nous dire quelque chose du monde. Tout l'art de la deuxième moitié du XXe siècle s'est confronté à cette question vertigineuse, que dire après Auschwitz? Et on le trouve dans la poésie, bien sûr, mais aussi dans la peinture. Il n'y aurait plus de possibilité de représenter une fois que l'Occident a été confronté à cette crise de sens. Et en fait, la question, c'est cela, c'est de savoir comment on peut dépasser cette crise de sens. Est-ce que réellement certains artistes y arrivent et par quel biais y arrivent-ils?
Benjamin Oliven.
Oui, tout à fait. Il a été assez fréquent de justifier, disons, l'abstraction, ou en tout cas la fin de la peinture traditionnelle ou figurative, par, disons, le traumatisme, enfin les traumatismes du XXe siècle en général, et Auschwitz en particulier, en disant que c'était l'art d'un monde qui n'avait plus de sens et qui exprimait une forme de silence ou de souffrance ou de d'incompréhension ou d'absurde. Et en fait, ce qui m'a frappé en écrivant ce livre, c'est que bon nombre d'artistes qui sont revenus à la figuration au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, que ce soit en Amérique, en Angleterre ou même en France, par exemple cet artiste qui s'appelle Sam Safran, dont je parle, qui
oui,
est un
dont
artiste
vous
très
parlez
important
régulièrement,
et qui,
oui.
Voilà, sont des sont d'origine juive. Et avaient été concernés, disons au plus près, par le génocide. Et eux, ce qu'ils, par exemple, Sam Safran est a été arrêté pendant la rafle du Veldiv. Il s'est échappé du Veldiv parce qu'il avait une dizaine d'années. Et eux, pour eux, la figuration, la peinture a été plutôt la réponse qu'ils ont apportée à cette perte de sens. Mais c'est une réponse évidemment toujours un peu désespérée. On sait qu'il y a quelque chose de perdu dans l'humanisme traditionnel et qu'on ne le retrouvera pas, mais en même temps il faut essayer, il faut faire ce qu'on peut. Et par exemple la peinture de Lucian Freud, je crois que c'est une peinture qui est quand même marquée par le souvenir de tout ce que le XXe siècle a eu de dureté et de nous a révélé de terrible sur la nature humaine.
Une citation de votre livre, avant de laisser Gilles vous interroger. J'ouvre les guillemets. « Rien de plus triste que la visite d'un musée d'art contemporain ou des salles contemporaines d'un musée d'art. L'impression d'un immense foutage de gueule, d'une absence complète de sens, de la disparition de la beauté, du travail, de l'œuvre. Il faudrait également analyser les motifs récurrents de cet ensemble d'objets, son répertoire systématique. La merde, la pisse, le sperme, tout ce qui a trait au sexe, toutes les sécrétions corporelles, le droit d'honneur, le mot « fuck » et la cruauté envers les animaux. Est-ce que vous ne durcissez pas le trait pour essayer de rendre hommage à des artistes, effectivement, qui ne trouvent pas forcément spontanément leur place dans le Panthéon, dans les musées d'art contemporain d'aujourd'hui ?
Écoutez, est-ce que je durcis le trait ? Non, je crois pas. Je crois que les lieux dédiés à l'art contemporain donnent une impression, aujourd'hui, donnent une impression souvent terrifiante ou désolante. Il peut y avoir de très grands artistes qui sont dedans. Il y a des artistes qui sont aujourd'hui parmi les plus cotés au monde, qui sont très beaux, qui sont dans les centres d'art contemporain. Mais l'impression d'ensemble donne quand même souvent globalement l'impression d'un désastre.
Gilles Finkelstein.
Ouais, vous soulignez dans votre livre cette dissociation de plus en plus importante entre l'artiste et son œuvre. Est-ce qu'il est... Allons, je pense, si on tire le fil jusqu'à une critique non seulement du système capitaliste, mais des sociétés en général, est-ce qu'il n'y a pas là le signe, quand on regarde cette prédominance de l'image, non pas de l'image de l'œuvre, mais de l'image de l'artiste, quelque chose de plus vaste? Quand on regarde un débat politique, la question est de savoir qui a été bon et pas qui a dit le juste. Quand on publie un livre, Régis Debray disait « on est passé du matu lu au matu vu ». Et donc cette prédominance de l'image, est-ce que ce qui se passe dans l'art n'est pas une illustration de quelque chose de plus large ? Et d'autre part, le système capitaliste, d'ailleurs qu'il soit autoritaire comme en Chine ou plus libéral comme aux États-Unis, se traduit aujourd'hui par une extraordinaire concentration de la richesse et derrière avec une spéculation de plus en plus folle, y compris sur le marché de l'art. Est-ce que, c'est disons le versant progressiste du réac que j'évoquais tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans ce livre une critique en creux, et même pas que en creux, du système capitaliste tel qu'il est ?
Benjamin Oliven.
Beaucoup de questions. Oui, bien sûr, il y a, disons, l'art contemporain a explosé à partir des années 1990, c'est-à-dire à partir de la chute du mur et de la mondialisation financière et des circulations des flux de capitaux. Et il a à voir quand même avec cette mondialisation financière. L'art a toujours été un bien de luxe, il a toujours eu des mécènes, il a toujours coûté très cher, il a toujours réclamé des millionnaires ou des milliardaires pour le soutenir. Mais on est quand même passé dans les dernières années d'un rapport à l'œuvre d'art où on achète une œuvre d'art très chère parce qu'elle est belle et qu'elle nous plaît, ouais, à une situation où on achète une œuvre d'art très chère parce qu'on veut la revendre encore plus chère. Ça a toujours un peu existé, mais je crois que maintenant c'est ce qui a pris le plus c'est ce qui a pris le pas sur le premier rapport à l'œuvre d'art. C'est-à-dire c'est la spéculation, c'est la valeur d'échange et non la valeur d'usage. Et ça, bon, malheureusement, ça se fait au détriment du rapport avec l'œuvre d'art.
Et pourtant, et alors, quant à la première sur le question... marché de l'œuvre d'art, Benjamin Oliven, c'est vrai que il y a des artistes comme Jeff Koons ou Damien Hirst qui sont cotés, sûrement surcotés, objets de spéculation complètement folles. Mais le tableau le plus cher au monde, c'est le Salvador Mundi de Léonard de Vinci qui a été vendu il y a maintenant quelques années. Et lorsqu'un Monet, par exemple, ou un Giacometti est sur le marché, c'est vrai que les prix s'affolent. Est-ce que la question de la valeur, je la repose peut-être un peu plus clairement, la valeur, comment la connecter à l'autre valeur que vous envisagez, la valeur artistique, la beauté comme valeur ? Ces deux choses sont totalement déconnectées ?
Non, pas du tout. Non, effectivement, il y a un lien. Et quand c'est les tableaux de Hockney ou les sculptures de Giacometti ou un tableau de Léonard de Vinci, encore que les spécialistes débattent pour savoir s'il est vraiment Léonard de Vinci, oui, celui-là. Mais quand ils atteignent des prix records aux enchères, c'est à la fois, on a à la fois les deux rapports à l'œuvre d'art. C'est l'œuvre d'art comme chef-d'œuvre qu'on veut avoir chez soi et l'œuvre d'art comme bon placement. Donc c'est évident qu'il y a une connexion. On va pas pouvoir les séparer du jour au lendemain. Mais cela dit, c'est le Il faut quand même restaurer un rapport à l'œuvre d'art qui est quand même fondé sur la jouissance ici et maintenant. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai écrit dans le livre, c'est aussi que je serais très intéressé de voir quelles sont les œuvres qui sont le plus achetées en cartes postales dans les musées. Quelles sont les œuvres que les étudiants mettent dans leur chambre d'étudiants ou en fond d'écran de leur ordinateur. Et je pense que là, on aurait une idée beaucoup plus réelle des hiérarchies réelles du XXe siècle. Et on verrait surgir des peintres. Vous avez parlé de Bonnard, qui pendant longtemps, ou de Valoton, qui pendant longtemps ont été un peu vu avec mépris par rapport à la grande histoire des avant-gardes.
Natacha Polony.
Alors, ce que vous racontez dans votre livre aussi, c'est que la France a finalement plongé davantage que d'autres pays dans cette idéologie d'un art contemporain vu comme avant-garde permanente. Et la question, c'est de savoir pourquoi. Alors, première chose, vous le dites d'ailleurs dans le livre, nous sommes un des rares pays à avoir un ministère de la Culture, et il faudrait peut-être interroger le rôle notamment de Jack Lang au ministère de la Culture, puisque c'est le moment où certains courants d'art contemporain s'imposent au détriment des autres, c'est-à-dire avec une forme véritablement d'exclusivité, ce qui provoque le paradoxe d'une France qui n'est plus vraiment le lieu de la création. Et ça, c'est la dimension public du problème, qu'on voit aussi dans les commandes publiques, c'est-à-dire quand la mairie de Paris commande le cœur de Johanna Vasconcelos à 650 000 euros, qui est d'une pauvreté esthétique absolue, quand avant cela, il y avait le fameux perroquet de Christophe Girard,
une pauvreté
dont Philippe Muret avait parlé avec une drôlerie incroyable. Ça, c'est la commande publique. Et en face, il y a le privé, la guerre Pinault-Arnault, la spéculation. Comment se joue cette alliance publique-privée? Quel est le rôle notamment de toute l'administration du ministère de la Culture dans cette exclusion d'artistes au profit de cet art contemporain que vous dénoncez?
Benjamin Oliven.
En fait, le point fondamental, selon moi, c'est que les gens dont vous parlez abordent l'art non pas uniquement avec le goût, mais avec une idée, des idées de ce que doit être l'art au XXe siècle, au XXIe siècle, une idée de ce que doit être l'histoire de l'art, ou bien une idée de ce que doit être leur ministère s'ils sont fonctionnaires du ministère de la Culture. Et donc c'est au nom de cette idée qu'ils font des achats, qu'ils soutiennent des artistes, qu'ils passent des commandes publiques, qu'ils installent des objets dans des lieux publics. Et de même, c'est au nom de cette idée que les grands milliardaires dont vous parlez soutiennent l'art le contemporain le plus apparemment radical pour comment dire montrer qu'ils sont dans le sens de l'histoire, dans le sens du progrès, et qui pour peut-être racheter leur image de méchants capitalistes par ailleurs. Et donc on va pas se débarrasser du fait d'aborder l'art avec des idées, mais je pense qu'il faudrait plus laisser la place au goût individuel.
Et justement, je vous cite encore, même la base des collections nationales est l'expression des goûts du prince ou de l'empereur. Avec la création du ministère de la Culture, ce processus devient non plus une affaire de goût, mais d'idées et même d'idéologie. Les fonctionnaires n'achètent pas pour eux, mais subventionnent en fonction d'un projet politique. Ils sont sensibles à un discours sur l'œuvre et non à l'œuvre elle-même. Gilles Finkelstein.
Bah oui, excusez-moi, je vais juste dire quelque chose. Oui. C'est le phénomène qu'on connaît tous très bien, où on va dans un musée ou un centre d'art contemporain, on voit un objet dont on ne comprend à peine ce qu'il fait là, et ensuite, il faut un très long discours d'un critique pour commencer à rendre cet objet intéressant. Ce qui est pas du tout la même chose que le discours d'un critique qui nous aide à comprendre ce qui nous a touché d'abord, avant même tout discours.
Gilles.
Oui, dans cette critique que vous faites de l'art contemporain ou d'une partie de l'art contemporain, il y a aussi en cru une revalorisation de ce que vous appelez les arts mineurs, dont vous montrez que eux sont restés dans le figuratif, dans cette narration, et que peu à peu l'intérêt s'est déplacé vers eux. Que on pense, vous en parlez, de la chanson, de l'affiche, de la BD. Jusqu'où ça va? Est-ce que par exemple les jeux vidéo sont de l'art, les jeux vidéo qui peuvent reproduire
sont figuratifs,
sont souvent figuratifs, sont extrêmement réalistes dans la reconstruction de l'Antiquité ou de villes du Moyen Âge. Est-ce que ça aussi c'est de l'art?
Alors écoutez, je ne suis pas spécialiste des jeux vidéo, mais il est évident que, disons, dans la création des mondes, il y a des gens qui dans des mondes des jeux vidéo, des décors, il y a des gens qui travaillent et qui s'efforcent de faire quelque chose de graphiquement réussi. Donc il y a en tout cas de l'artisanat et de l'art. Et de même, il me semble que la musique du jeu vidéo Zelda fait partie des musiques préférées des auditeurs de Classic FM en Grande-Bretagne.
Ouais.
Là-dedans aussi, il peut y avoir de la création, j'imagine.
Natacha Polony.
Oui, sauf que justement ces arts sont considérés comme mineurs, et c'est parce qu'ils sont considérés comme mineurs qu'ils ont droit, j'allais dire, à la figuration. Est-ce que vous voyez à un moment donné la possibilité de renverser cette mécanique que vous décrivez, ou est-ce que nous sommes condamnés à l'insignifiance, et pour combien de temps?
Je pense que tout est possible à tout moment, on peut changer.
Mais il y a quand même une trace d'optimisme, Benjamin Oliven, dans votre livre. Une petite trace d'optimisme dans votre livre, quand vous dites que la France, aujourd'hui encore, ne se résout pas à la disparition de la beauté. Elle est toujours un centre d'art, et c'est vrai qu'il y a d'immenses artistes qui continuent de choisir d'y vivre, que ce soit Barcelo ou Anselme Kiefer.
Oui, exactement. Écoutez, quand vous me posez cette question, je pense à des témoignages de dessinateurs de bandes dessinées, par exemple Blutch, qui racontait qu'il avait fait une école d'art, les Arts Déco à Strasbourg, je crois, et qu'au début, il se posait la question de la peinture, et qu'il avait eu un tel... Il avait été confronté, ça devait être dans les années 70, à un tel discours sur les arts contemporains de l'époque, sur Boyce, etc., qu'il s'était tourné vers l'illustration et la bande dessinée. Et donc ça peut changer. Ça peut changer. D'ailleurs, je crois que dans les écoles d'art, il y a en ce moment un retour un peu de la peinture et du figuratif, parce qu'on sent qu'il y a un épuisement des avant-gardes précédentes. Donc peut-être un message d'espoir.
Il nous reste très peu de temps, Gilles Finkelstein.
Oui, chose qui est intéressante dans votre livre, il n'y a pas seulement une critique de l'art contemporain ou d'une partie de l'art contemporain, mais vous mettez aussi en exergue un certain nombre d'artistes actuels que vous trouvez intéressants.
Ah, mais c'est un livre qui donne envie de courir au musée, et c'est un livre qu'on lit en étant frustré de ne pas pouvoir aller justement admirer les œuvres que vous mettez en avant, ces artistes que vous choisissez d'honorer et de considérer peut-être plus et mieux qu'ils ne sont considérés aujourd'hui.
Oui, mais alors si j'en reviens à la critique que vous faites de l'art contemporain, vous faites le parallèle avec les critiques qui ont été faites au moment de l'émergence, notamment des impressionnistes, et que c'est par peur de sombrer à nouveau dans le même type de critique, on s'extasie devant des œuvres qui n'ont pas de valeur. Mais de manière symétrique, est-ce que en quoi votre critique est-elle différente des critiques qui étaient formulées à l'époque contre les impressionnistes et un art qu'on ne comprenait pas?
Écoutez, je crois que la grande différence, c'est que les impressionnistes, quand ils sont arrivés, étaient refusé par les autorités en place. C'était un art qui s'est imposé quand même plutôt par le public collectionneur contre les académies, les autorités de l'État, etc. Et que l'art contemporain dont nous parlons est d'emblée soutenu par le pouvoir et de l'argent et de l'État. Et quand Maurizio Catlan scotche une banane contre un mur à Art Basel Miami en décembre 2019,
oui.
Sa banane est immédiatement vendu 120 000 dollars par une grande galerie parisienne. Donc j'ai pas l'impression que ce soit des maudits et que la situation soit la même, quoi.
Natacha, encore un mot.
Un dernier point. Est-ce que la bourgeoisie, enfin plus que la bourgeoisie, les très riches aujourd'hui qui achètent de l'art parce que ça ne rentre pas notamment dans l'ISF et les choses comme ça, est-ce que tous ces gens-là n'ont plus la culture que pouvaient avoir par exemple les Médicis? Enfin, quel est le problème? Quelle est la différence qui fait qu'ils préfèrent Jeff Koons?
L'un des problèmes, c'est qu'il croit effectivement, oui peut-être un problème de... Mais c'est qu'il croit... dur comme fer à une certaine histoire mythique du XXe siècle dont nous avons parlé au cours de cette émission, qui veut que les Jeff Koons d'aujourd'hui soient les successeurs des Van Gogh d'hier.
C'est ce que vous écrivez. Refuser Jeff Koons, c'est refuser Van Gogh. Voilà l'un des mensonges de cette histoire officielle de l'art, mais ce n'est pas le seul.
Voilà. Et donc c'est sur la base de ce récit mythique qu'ils ne se sentent pas autorisés à à refuser ces artistes et même qu'ils se sentent obligés de les soutenir et de les aimer.
Il y aura toujours des artistes ignorés, des artistes méconnus. Vous citez Van Gogh, c'est le cas d'école peut-être le plus fort et le plus frappant. Cette histoire-là, finalement, elle se répétera toujours, Benjamin ?
Oui, tout à fait. Et encore que Van Gogh, il faut savoir que le temps de sa carrière arlésienne réelle est très court et qu'en fait, s'il avait vécu assez longtemps, il aurait probablement fini sa vie couvert de gloire et d'honneur comme Picasso, comme Monet qui était l'ami de Clémenceau et qui a offert les Nymphéas à la France le 11 novembre 1918. Un artiste quand il surgit, un artiste véritable quand il surgit déstabilise notre vision du monde, il est difficile à admettre, mais ensuite s'il est bon, il s'impose.
Oui. Voilà. Non mais c'est une bonne conclusion et en l'occurrence je recommande vraiment la lecture de ce livre, L'autre art contemporain, c'est chez Grasset, Vrais artistes et fausses valeurs, on y apprend beaucoup de choses et je le disais, ça donne envie de débattre de l'art d'aujourd'hui, des beaux-arts et de s'interroger sur le sens de la beauté. Merci d'avoir été l'invité du Grand Face à Face, Natacha et Gilles, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci à Mathilde Clatt à la réalisation, Marie Mérier à la technique, Ludovic Asselot à suivre sur Inter. Le journal.